Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Méloutre, Melouftou, comment allez-vous? Comment se passe votre été? Bien, j'espère. J'avais enregistré l'épisode d'aujourd'hui avec Nicole Ferroni, en tournée à Francheville, près de Lyon, le 10 mars, lors d'un PSU, Please Stand Up, plateau que programme Valentine Mabille. Valentine qui produit le plateau que je fais également ce soir à Belle-Île au Palais. Là, je vous parle à 17h25 et on a rendez-vous pour les balances à 18h, salle Arletty. Je dois pas trop tarder. Sur ce plateau, il y a Alex Ramirez, Marine Baousson, Urbain, Marie Reynaud, Yacine Bellous et moi-même. Je suis toujours stressée car je me trouve pas suffisamment efficace en plateau. Je préfère me présenter via le spectacle, mais j'espère quand même que ça va aller. Je vais essayer de faire des petites blagues sur Belle-Île. Je vous raconterai en outro de l'épisode, que j'écrirai demain, comment le plateau s'est passé. En tout cas, le cadre est magique. J'étais déjà dans le golfe du Morbihan depuis samedi dernier avec mon père. Il m'a amenée jusqu'à Quiberon hier. Aujourd'hui, balade, baignade, pique-nique avec les copains. Demain, mes camarades humoristes s'en vont, mais ma mère me rejoint et on reste ensemble à Belle-Île jusqu'à mercredi prochain. J'ai loué des vélos électriques, on va faire de belles balades. J'étais déjà venue à Belle-Île, comme je le raconte dans mon livre, chapitre Sauzon. Pour Nicole, notre invitée du jour, son happy place est Marseille, où elle vit à l'année, et elle a depuis longtemps l'habitude d'avoir toujours un maillot dans son sac. Nicole Ferroni est donc humoriste, elle s'est faite connaître grâce à Ondar, On ne demande qu'à en rire, puis avec ses chroniques en diablé sur France Inter. Plus récemment, elle a endossé le rôle de présentatrice pour l'émission Piquant sur Teva, et elle tourne en tant que comédienne, on pourra la voir en rôle principal de la série Asperger qui sera diffusée au printemps prochain sur OCS. Dans cet épisode, nous avons parlé des invités qu'elle aime recevoir sur Piquante versus les personnalités politiques auxquelles elle aimait se confronter en radio, la raison de son départ de France Inter, mais on a aussi parlé de son ancienne vie de prof ou encore de son stalker. Nicole Ferroni n'est pas franchement névrosée et c'est très sereinement qu'elle milite pour l'ego. Bonne écoute. J'ai demandé qu'ils me mettent sous antibiotiques, elle m'a dit non, vous avez une rhinopharyngite. C'est pas la peine de prendre des antibiotiques. Et j'ai dit, bah si, parce qu'en fait, ça me fait mal là. Elle m'a dit, ah ouais, donc sinusite. J'ai fait, ouais. Et donc, elle m'a mis sous antibio et c'est comme ça que c'est parti, quoi.
Ben oui.
Alors, ma chère Nicole, je vais te lire ton petit poème.
Oh.
Nicole Ferroni, nous nous sommes rencontrés récemment grâce au plateau Please Stand Up en province et j'ai eu un coup de cœur pour Nicole, hyper simple, sympa, sincère, drôle et ouverte. Je connaissais Nicole de nom, bien sûr, surtout pour ses fameuses chroniques sur France Inter, mais aussi parce qu'elle a joué dans Commissariat Central avec mon amie Vinnie Dargo. Et plus récemment, elle est l'animatrice de l'émission Piquante avec plein d'humoristes incroyables comme Laura Domange, Christine Béroux, Florence Mendez, Tani, Marinella, Thaïs Vauquier. Mais le public ignore parfois la carrière télé de Nicole, ses débuts à On ne demande qu'à en rire. Il sait surtout que c'est une ancienne prof de SVT au débit incroyable. C'est vrai que Nicole parle vite, comme si elle avait beaucoup de choses à dire en très peu de temps, comme si elle ressentait tout le temps. Merci Nicole d'avoir accepté mon invitation dans Les meufs que je veux ken.
Eh oui, c'est vrai que je suis une meuf.
Eh oui.
Eh bien, merci de m'y avoir invitée.
Je croyais, merci de me l'avoir rappelé.
Ah, que j'étais une meuf.
Ouais, tu l'oublies parfois.
Ça m'arrive. Ouais. En tout cas, alors, ce qui est mignon dans ton poème, c'est que je me suis dit qu'il y a plus de seins dans ton poème que ce que j'en ai moi sur ma propre poitrine, parce que t'as dit que j'étais sincère et sympathique. Et je sais plus quoi, j'ai dit, ah, mais ça me fait plein de ça.
C'est vrai, sympa, sincère et sympathique, ça, ah, voilà. Ça fait trois S. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il faut le noter? Et tu l'as noté. Et c'est vrai que t'as une petite passion pour la langue française quand même, et les jeux de mots.
T'as une petite poitrine.
Non.
Oui, c'est vrai, j'ai une petite passion pour les jeux de mots.
Ah bah oui.
J'ai même une grande passion pour les jeux de mots.
Mais oui.
Et des fois, ça pose problème là dans Piquante, parce que y a Thaïs Wauquiez qui a également cette même passion. Et donc, très souvent, en fait,
concours, rivalité.
Alors, pas rivalité, c'est plus que à notre insu, on vole les blagues de l'autre.
Oh.
Hier, par exemple, on a eu Michel Larocque comme invité. Et voilà, moi, j'ai fait dans mon papier, dans ma bio de Michel, je dis, ah, Michel Larocque and roll. Et Thaïs a fait la muse après. Donc, à chaque fois, elle me fait un petit clin d'œil. Elle fait, bon, tu l'as faite avant moi.
Ouais.
Et des fois, c'est l'inverse.
C'est la course. Mm-hmm. Toi, dis donc, t'en as vu passer en fait, des gens, parce que sur Piquante, mais même avant sur Inter, tu t'es retrouvée, même face à Marion Maréchal-Le Pen, enfin tout un paquet de... Et alors, tu me racontais que sur Piquante, t'aimais pas trop les invités politiques, mais par contre, à la radio, tu préférais
J'aimais
ça.
J'aimais bien.
Ouais.
Bah, en fait, la différence, c'est que sur Piquante, en fait, il y a... Comment dire, c'est une émission qui est quand même bienveillante, on n'est pas là pour ni épingler ni critiquer. C'est des invités qui globalement normalement viennent faire plutôt une promotion de leur actualité, et ça se veut pas, oui, être une émission de polémique. Sauf que le problème que j'ai eu notamment par exemple avec comme invité Najat Vallaud-Belkacem, qui est une personne face à qui je m'étais beaucoup opposée à la radio,
et
notamment
oui.
du fait de la réforme des collèges que je n'aimais pas du tout. Mais là, comme elle était plus à ce moment-là une personnalité politique, puisqu'entre temps elle avait quitté la vie politique, voilà, je me disais, elle n'est pas là pour que je lui en mette plein la gueule vis-à-vis de son passé politique.
Ouais.
Et en même temps, je me suis un peu fait arnaquer parce que juste après, elle s'est présentée au régional. Je me suis dit, oh non
ouais.
Oh, j'ai servi de... comment dire, l'émission a je ne vais pas dire servi de caution bonne humeur, mais c'est vrai que voilà, du coup, j'ai eu un peu le sentiment que dans Piquante, face à des invités politiques, on n'a pas les épaules pour ne pas être utilisé à des fins de redorage de blason.
En fait, Piquante, c'est plus quand même participer à la promotion de l'invité, donc en général des artistes.
Ouais.
Et Inter, c'était quand même remettre en question.
Oui, mais en fait, il y a aussi une vraie différence de posture. En fait, on n'est pas obligé non plus de brosser les invités dans le sens du poil à Piquante. Mais déjà, à Piquante, on participe au choix de l'invité. C'est-à-dire que la production nous soumet des invités. En fait, moi, je peux dire que je ne veux pas telle ou telle personne.
Okay.
Si je ne me sens pas à l'aise, ou si j'estime que le passé de l'invité
est trouble,
est suffisamment peu glorieux ou clair pour que qu'on ne prenne pas envie de lui faire de la promotion. Alors que à la radio, en fait, c'est pas moi qui choisissais les invités, donc j'avais pas ce truc de dire, ah ben je te fais venir, ça me fait plaisir, je vais te mettre un grand taquet. Je trouve que la posture est difficile à avoir à partir du moment où on invite la personne. Je veux pas dire que c'est un choix c'est un choix de la faire venir, et donc si vraiment j'ai été opposée, tout simplement je la fais pas venir, parce que je sais très bien que même s'opposer à quelqu'un, c'est déjà lui donner la visibilité.
Ouais, c'est clair.
Et à la radio, déjà je choisissais pas l'invité, puis aussi j'étais pas l'animatrice.
Ouais.
C'est-à-dire j'avais pas ce statut de poser des questions. Moi, je venais, je disais, au fait, ça, j'aime pas du tout. Mmh. Et puis, je m'en allais.
Oui, tu faisais ton billet d'humeur.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a quand même, à la radio, des invités qui t'ont intimidé, devant lesquels t'as perdu tes moyens?
Oui. Ça m'est arrivé. Alors, je crois que c'est vraiment une expérience qui était vraiment bizarre, c'était face à François Fillon.
Ah ouais?
Parce que j'ai fait une chronique. Alors, c'est vrai que j'ai attaqué un peu fort en disant oui. Alors j'ai essayé de me mettre à la place de quelqu'un de droite. Bon, ça m'a vite donné de l'eczéma. Donc ça a commencé fort. Mais en fait, le contenu de la chronique, c'était pour dire que j'étais d'accord avec lui. Et c'est ça qui était bizarre. C'est qu'à la fin, il m'a envoyé un scud, mais l'air de dire, en gros, il m'a dit, oui, le jour où les gens de gauche se rendront compte que les lois contre lesquelles ils manifestent ont en réalité ce qui leur permet de se retrouver à l'antenne, ou je sais pas quoi, nanana. Bref, donc, alors qu'en fait, moi, toute ma chronique, j'étais là, mais je comprends pas, je suis d'accord avec toi.
Ah
donc,
ouais,
comment tu peux ne pas être d'accord avec moi?
Mais comment tu pouvais être d'accord avec François Fillon?
Alors, oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. Non, sur quel point j'étais d'accord, c'était au moment où... Après le fait qu'il y ait eu les attentats, je crois, du Bataclan, donc il y avait tout ce débat sur la déchéance de nationalité. Uh-huh. Et en gros, en fait, c'est un moment où à l'Assemblée nationale, eh ben, comment dire, je veux pas dire que on s'attendait à ce que l'émotion provoquée par à la fois par les attentats et par cette proposition fasse que l'Assemblée soit unie et soit d'accord sur le fait qu'il fallait vraiment déchoir la nationalité. Nanana. Et en gros, tous les gens qui étaient pas en accord avec cette proposition là étaient vraiment montrés du doigt. Et sauf que moi, je trouvais que c'était vraiment utiliser l'émotionnel,
ouais,
juste pour, comment dire,
faire passer,
enfin, ou en tout
une
cas,
loi dangereuse.
Ou déjà, juste dire, bah, normalement, il faudrait là qu'il y ait l'union de tout le monde pour faire ça. Et je me disais, bah, non, en fait, là,
ouais, c'est la démocratie.
C'est prendre en otage aussi quelque chose d'émotionnel. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, où la société, elle se sent terrassée, remise en doute, etc. Très souvent, l'émotion ensuite est utilisée à des fins politiques. Et moi, j'ai du mal avec ça parce que je trouve que les choses doivent rester à leur place. L'émotion, c'est une chose, la politique, c'en est une autre. Et des fois, les réponses sont pas judicieuses. Par exemple, je pense que quelqu'un qui est prêt à se faire sauter, à mon avis, dans le fait de la nationalité française, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a peut-être d'autres questions à se poser avant. Et en fait, j'aime pas ce type de façon de faire. Et donc, en fait, je disais François Fillon.
Lui, il n'était pas d'accord.
Il voulait pas, voilà. Il n'était pas d'accord pour le fait de voter la déchéance de nationalité. Ouais. Et donc, je lui disais, voilà, en gros, je lui disais, c'est un peu comme lorsque vous êtes à un enterrement et que les gens se barrent sans payer.
Ouais.
Évidemment qu'on est mal, l'émotion fait qu'on va pas dire aux gens, ouais, excuse-moi, mais en fait, tu peux quand même régler ta note.
Ouais.
Parce que sinon, tout le monde te regarde en disant, quand même, on a un enterrement, quoi, tu peux raquer. Ouais. Et en même temps. Et en même temps, bah, si jamais tu dis rien, c'est toi qui te retrouves à payer la note pour 30 personnes.
Ouais.
Et donc voilà, j'ai fait ce parallèle-là. Et en fait, je pense qu'il n'a pas compris que j'étais d'accord avec lui.
Ah,
il n'était pas d'accord avec moi. Donc en fait, il n'était pas d'accord avec lui-même. C'était dommage.
Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu soulèves, l'utilisation de l'émotion, l'instrumentalisation. Et ça rend nos métiers... tu vois, on a une camarade qui, là, parce qu'il y a justement une actualité politique grave, on lui a dit qu'on lui a enlevé son poste d'humoriste dans l'émission. Parce qu'on juge qu'il n'est plus l'heure de faire des blagues, il faut se concentrer sur l'actualité.
Sur la guerre. Voilà. Et sur la guerre, en plus, particulièrement.
Et sur la guerre. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce procédé? Moi, je trouve ça assez grave et inquiétant. Parce qu'il y a besoin encore plus d'humoristes.
Moi, je trouve ça. Alors, en fait, comment dire, j'ai un regard un peu quand même ambivalent parce que, à la fois, je trouve ça. Grave, en fait, de remplacer l'humour par la guerre. Je trouve que même en termes de symbole, je me dis au secours, quoi. Ça veut dire qu'on laisse plus de place au rose, en fait. On remplace tout le rose par du gris. Et en même temps, je sais qu'à l'inverse, moi, le fait d'avoir vu, en tant qu'humoriste, le fait qu'on mette des humoristes un peu partout, par exemple, dans les cases à la radio, ça m'a donné aussi l'impression que, des fois, on désamorce des choses graves. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'arrivait d'aborder plusieurs fois les mêmes sujets, parce que comme j'étais une chroniqueuse en matinale, donc...
Tous les jours.
Voilà, bah donc chaque année, je me retrouvais des fois à reparler des mêmes choses. C'est-à-dire qu'au moment, par exemple, de l'anniversaire concernant la lutte pour les droits des enfants, je me disais, alors je vais reparler de qu'est-ce qui se passe à la protection de l'enfance.
Ouais.
Et puis au bout d'un moment, en fait, je me disais, non, mais en fait, ça ne me fait plus rire.
Ouais.
Ça ne me fait pas rire, c'est grave, en fait, ce qui se passe. Et donc, il y a des fois où je me dis, à l'inverse... Je trouve que ce serait bien que ce soit pas toujours les humoristes en fait qui portent les messages qui soient importants, parce que en ce moment des fois c'est un peu ça. Je me retrouve avec souvent comme commentaire le fait que je sais pas, qu'on nous écrive aux humoristes, notamment à France Inter, il y a beaucoup de heureusement que vous êtes là pour le dire. Tu dis oui, mais en même temps c'est pas normal,
c'est
en fait.
Grave. Ouais.
Voilà.
Ouais, toi tu considères que c'est une reproche qui t'a été faite sur ta dernière année à France Inter, de parfois ne plus vouloir rire de certains sujets et avoir envie d'avoir une parole plus à cœur, plus sincère, comme je disais dans mon poème?
Oui. Non, ouais. c'est même pas que je considère. C'est vrai que c'est le reproche qui m'a été fait.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai pas été reconduite, notamment parce que mes chroniques étaient plus assez drôles et qu'elles étaient plus assez... légère, ou alors le terme c'était déconnant, c'est voilà, donc là vous n'êtes plus déconnante. Et c'est vrai, je peux pas nier le fait que il y a vraiment une lourdeur, ou en tout cas une colère qui s'est installée en moi, parce que je trouve que que les choses ont, changent pas assez ou pas assez vite ou, mmh. ou sont ignorées ou en tout cas il y a toujours le même biais qui font qu'on arrive à, voilà, à passer outre des choses qui sont graves. Et oui, et malheureusement, c'était pas dans le cahier des charges de départ. Moi, ouais. mon cahier des charges, c'était d'être humoriste. Donc, de faire rire. Et
Après, c'est peut-être une question de temps, parce que ça faisait combien d'années que tu étais en matinale, justement?
Là, ça faisait 7 ans quand même.
7 ans.
7 ans, c'est un couple, hein. c'est une crise de couple.
Hein. Ouais, et puis en plus, c'est, tu peux voir l'angle. Une fois que l'angle rigolo, il est vu, bon. Eh ben, mais il n'y en a pas non plus 150 000. Mmh. C'est-à-dire que, alors que par contre, la peine, elle dure. Enfin, tu vois, oui, la déception, la frustration. Une fois qu'on a fait la blague, bon, bah, on l'a faite pour désamorcer. Mais il n'y a pas. C'est d'ailleurs tout le problème, tu disais avec Thaïs, en fait, vous faites la même blague. Mais c'est parce que justement, il n'y a pas 150 000 angles parfois.
Oui, oui.
Et c'est ce qui fait que les humoristes s'écharpent un peu quand certains disent « Ah, mais tu me l'as piqué ». Mais en fait aussi, parfois, il y a juste la coïncidence et le hasard que tu vois, que ce soit des blagues sur Griveaux ou Raoult. Bon, en fait, tu vois, quand il y en a... Ouais. Et à un moment, elles sont faites.
C'est ça, c'est ça. Et donc, Griveaux, ouais. il montre une fois son zizi. Voilà. Bah, on va, oui, c'est
tous,
sûr.
Et
on va
oui,
tous exploiter le même zizi de Griveaux.
Exactement. Alors, peut y avoir 2-3 formulations, mais c'est vrai.
Oui, certains vont s'occuper un peu des ouais. boules.
Mais d'autres beaucoup. Des poils.
Voilà.
Mais donc forcément, au bout de 7 ans, oui, sûr. En plus, comme tu dis, en fait, avec des sujets qui reviennent, mm-hmm. Bah oui, au bout de 7 ans, quand t'as fait les blagues sur la journée de la femme, mm-hmm. voilà, etc. Oui, en fait, comment c'est normal peut-être d'avoir envie de rentrer plus en profondeur dans le... Ouais.
Oui, oui. Et puis, oui, en fait, comment dire, il y a un chemin aussi personnel qui fait ouais. que... Moi, avant, en fait, j'étais pas chroniqueuse à la matinale. Et le propre, quand même, d'être chroniqueuse à une matinale, c'est que on se retrouve confronté au sujet d'une matinale. Et le sujet de la matinale, c'est la politique, l'économie, c'est le fonctionnement de la société, mais vraiment dans sa mécanique. Et en fait, ça, la plupart... Enfin, comment dire, moi, avant, j'ignorais, en fait, comment fonctionnait la politique. J'ignorais... comment fonctionnait l'Assemblée nationale, les biais des fois de la Constitution, dans le fait qu'on puisse faire revoter quelque chose qui vient d'être voté par les députés. Et en fait, quand on ne sait pas, on ne peut pas être en colère. Mmh. En fait, c'est quand on sait, c'est quand on découvre. Et mon problème aussi, il était là. Il était lié au fait qu'à chaque fois que je commençais à travailler un sujet, je me disais « Non, mais c'est pas possible, ça. Voilà. Et donc...
Et t'as toujours été une révoltée comme ça?
Ben non, justement, pas tellement.
D'accord.
Pas tellement. Enfin, oui, j'avais des révoltes, alors peut-être plus sur, on va dire, des révoltes, voilà, sur l'écologie ou ouais. sur les inégalités hommes-femmes, mais moins politique. Politique, c'est vraiment venu avec l'exercice de la chronique en matinale.
Ouais. Et en effet, tu avais ton expérience de prof, donc j'imagine que tu as beaucoup bagarré là-dessus, les réformes.
Oui.
L'orthographe, c'est ça, c'était celle-là
c'était, alors, il y avait la réforme ouais. de l'orthographe, donc ça, c'était pas la plus...
Ouais.
Non, c'est pas la plus dure. Parmi moi, les réformes que j'ai trouvées vraiment très dommageables, donc le quinquennat précédent, c'était la réforme donc, de Mme Vallaud-Belkacem, qui est la réforme du collège, qui notamment, en mettant un plafond, on va dire, à 26 heures pour tous les élèves, en fait, a provoqué... dans beaucoup d'établissements, les suppressions d'heures projet. C'est-à-dire quand, par exemple, les profs avaient la classe jardin, ou moi, j'avais une copine, elle avait la classe Camargue. et en fait, qui sont quand même des heures qui sont très, très importantes pour le bien-être des élèves, parce que c'est souvent les seules heures où on arrive à raccrocher ceux qui sont en décrochage scolaire. C'est-à-dire celles où, en fait, on fait du fun, quoi. Mmh. Et pour lesquelles on fait quand même du contenu, mais sur un support qui est un peu différent. Et ça, voilà, je me disais, c'est grave, parce que c'est accroître encore les inégalités et je comprends pas qu'on laisse faire ça. Voilà. Et après, du côté de ce nouveau quinquennat, donc avec Jean-Michel Blanquer, là, beaucoup de colère sur la réforme du bac, sur Parcoursup, même si c'est aussi l'enseignement supérieur, mais vraiment, je me dis, mais c'est pas possible, ça n'est pas possible. Oui. Et c'est vrai qu'aussi, c'est ça qui est délicat, c'est que quand on a connu un milieu par son terrain, on voit vraiment le décalage entre les discours et la réalité. Mmh. Alors que au départ, je ne me rendais pas compte de ça, par exemple, concernant voilà, le ministère de la Santé ou le ministère de l'Intérieur. Et en fait, le fait de l'avoir vécu en tant que prof fait que d'un coup, quand on a commencé à recevoir des ministres autres que ceux dont je connaissais le terrain, et ben, du coup, je suis allée demander. C'est-à-dire que quand on allait recevoir Agnès Buzyn, je me suis dit « Ah, mais je vais demander à tous les gens qui travaillent dans la santé, qu'est-ce qui se passe pour eux ? » Et en fait, à chaque fois, je me retrouve avec des trucs où je me dis « Mais c'est pas possible, ces problèmes-là, comment ça se fait qu'ils existent et comment ça se fait qu'on ne les traite pas. Voilà.
Et parfois, tu n'as pas une nostalgie de l'époque où tu étais prof?
Alors, une nostalgie, non, parce que sincèrement, je suis beaucoup plus heureuse maintenant.
Ok.
Vraiment, c'est... je ne peux pas voilà, comparer mon niveau de bien-être. En revanche, j'ai un peu une tristesse et un peu une culpabilité.
Ah.
Parce que j'ai vraiment eu le sentiment d'abandonner un navire alors qu'il coule. J'ai vraiment l'impression d'être celle qui, pendant le naufrage du Titanic, et a réussi à trouver
l'un des premiers bateaux.
Ah ouais, une place dans un canot de sauvetage. Et je me dis, oh là là, les pauvres, et puis les autres,
ils
les voient
encore...
couler.
Ouais.
Et je me dis, j'espère qu'ils vont pouvoir se raccrocher sur un petit morceau de bois. Mais ouais, c'est ça que j'ai comme sentiment.
Ah, t'es Kate. T'as laissé Léo mourir.
Exactement, je vois, il est en train d'avoir froid et tout, il manifeste, et je suis là, mais je te comprends.
Ouais. Et vraiment, quand t'étais prof, t'étais malheureuse? C'est-à-dire que, comment ça s'est passé le switch où tu t'es dit, mais en fait, je me présente à On ne demande qu'à en rire, c'est ça? Quelle est la transition du moment où tu t'es dit, j'arrête ce métier pour un autre complètement? Ou alors, est-ce que c'était toujours quand même là, en filigrane, déjà? Le théâtre.
Alors, le théâtre a toujours été en filigrane, mais j'ai pas eu, je crois que j'ai pas eu le courage d'assumer le fait que je voulais en faire un métier.
Ok.
C'est-à-dire que je sais pas si c'est des barrières personnelles ou sociales, enfin sociales certainement, parce qu'en fait, c'était pas vraiment considéré comme un métier, en tout cas dans ma famille.
Dans ta famille, ouais.
Oui, voilà, ma mère, je sais qu'elle a vraiment eu cette phrase de dire « Ah oui, non, mais tu peux faire du théâtre en loisir, c'est bien le loisir.
Ouais. »
Moi, je disais « Non, mais peut-être en métier. » Elle me disait « Non, en loisir, c'est bien. » Donc, il y a vraiment ce truc-là comme quoi c'était pas un moyen de gagner sa vie. Et par exemple, ma mère, elle est toujours très inquiète sur ça.
Ah, à chaque fois,
elle me dit « Oui. » Elle me dit « Mais Nicole, tu vis de quoi ?» Et je dis « Mais maman, je travaille, en fait. »
Tout le temps.
Alors que je travaille...
Comme une folle, même.
Mais oui, je travaille beaucoup et je comprends pas comment elle peut se dire ça. Mais elle je pense qu'elle a le sentiment que c'est pas possible de gagner sa vie en étant artiste. Voilà. Et après, disons que la bascule, en fait, elle s'est faite... presque bizarrement dans le sens inverse, c'est-à-dire que je me suis pas dit vraiment foncièrement je vais quitter le fait d'être prof pour faire du théâtre. D'abord je me suis dit je vais prendre un mi-temps, et au départ c'était vraiment juste quasiment pour survivre. Pourquoi? Parce que en fait j'ai mis du temps à revenir dans mon académie Aix-Marseille. J'ai fait un Pax blanc pour pouvoir le faire, parce qu'il y a un système de points chez les profs qui dépend aussi de notre statut familial. Or, en n'étant pas paxée ni mariée, j'étais une des seules à être mutée en Essonne. Donc, j'ai trouvé... Voilà, je me suis paxée avec un pote de
faux.
Pote.
Ah ouais.
Voilà, un mec avec qui j'ai déclaré mes impôts pour de faux.
Oh là là,
à qui j'ai remboursé sa prime à l'emploi. Bon, pour de vrai, parce que sinon, il l'a perdu. Et après, donc, ce qui s'est passé, c'est que mon poste a été supprimé. Et bref, je me disais, ah non, j'ai à peine de récupérer mon poste. Et là, il est déjà supprimé. Je me suis dit, non, mais là, en fait, il me faut genre 6 mois juste pour...
De rupture.
Ouais, pour réfléchir, en fait, à c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie où on peut être balancé
hyper précaire,
dans un
quoi.
Département hyper loin, pour lequel on ne gagne pas sa vie, pour lequel on a très peu de reconnaissance. Et en fait, finalement, ces 6 mois de temps libre qui étaient au départ juste 6 mois pour souffler, ça s'est transformé en moment où je me suis mis à écrire un spectacle, mais un peu malgré moi. Et après, quand j'ai repris donc à la rentrée d'après le fait d'être prof, en fait, c'est mon ancienne prof de théâtre qui m'a dit « Nicole, il y a une émission qui s'appelle On demande qu'à en rire. Tu devrais la regarder parce que vraiment, je pense que ça te plairait. » Et moi, je lui ai dit « Ben non, je peux pas. En fait, Martine, j'ai plein de copies à corriger. Je devais préparer mes cours. » Et heureusement, elle a insisté. Et en fait, c'est comme ça que du coup, j'ai basculé. Et en fait, la rupture, le moment où je me suis dit « Ok, j'arrête d'être prof. » Ce qui a déclenché ça, c'est une fois qu'à On demande qu'à en rire, j'ai fait le sketch de Wonder Woman. Je me suis dit, là, je ne vais plus jamais retourner dans une classe parce que j'étais à la télé, en mini-short, à bustier.
Tu te sentais belle.
Wonder Woman.
Transformation, quoi.
Non, pas belle. Je me suis dit, mais là, une fois que
puissante.
Tu as été... Non. Je me suis dit, j'allais dire ridicule.
Ah, tu peux plus revenir.
Tu peux pas revenir dans une classe, c'est sûr. C'est mort.
Ils se foutent de ta gueule.
Ah, mais bien sûr. C'est pas possible. Une fois que
c'est marrant.
Ah oui. Enfin, tu vois, je
c'était
me suis dit...
C'était ça ton sentiment.
Je me suis dit, mais là, je peux pas faire preuve d'autorité si après, tu vois, le sketch, il se partage et moi, je suis en mini-short.
C'est ça.
Avec mon diadème.
C'était le geste, pas de marche arrière possible.
Ouais. Ouais. Je me suis dit, c'est comme si, en fait, je sais pas si tu vois, ben, c'est comme la bite à Griveaux.
Ouais.
En fait,
tu vois, bah oui, plus fois, de marche arrière possible. Bah non, tout le monde voit ta bite.
Bah
ouais,
non,
ouais.
Une fois que tout le monde ta bite. Voit ta bite, bon, bah, c'est compliqué de, ouais, c'est hyper compliqué de se présenter à une élection.
Très compliqué.
Bah, c'était un peu pareil, j'avais montré ma bite.
Et tu dis, ouais, c'est vrai, à juste titre, qu'il n'y a, y a plus vraiment de reconnaissance en France aujourd'hui pour les profs. Toi, la reconnaissance en tant qu'artiste, tu l'as ressentie à partir de quel moment?
Assez vite, hein, assez vite. En fait, alors après, je ne sais pas si c'est de la reconnaissance, enfin, ou alors c'est de la reconnaissance vraiment au sens strict. C'est le fait d'être reconnu.
Ouais.
Je ne veux pas dire le fait d'être admiré ou d'être légitime, mais juste d'être reconnu dans la rue.
Ouais.
Et ça, ça a été très puissant dès les premiers passages télé.
Ouais.
Surtout que la télé, contrairement à la radio, a cette force de frappe quasiment du fait que c'est vraiment l'image qui rentre dans le salon des gens. Et donc, il y a un niveau de proximité qui est imposé et qui, du coup, nous revient en retour. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai fait On demande qu'à en rire, dans la semaine qui a suivi, il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue en me disant « Waouh, waouh, mais c'est de la vie de la télé, nanana !» et tout. Mais notamment une femme, genre moi, j'étais au téléphone. Et en fait, je n'avais pas réalisé aussi que le passage avait été diffusé parce que, comme c'était diffusé en différé, enfin, on avait enregistré lundi et c'était diffusé, je crois, un jeudi, j'ai pas réalisé qu'en fait c'était la veille que j'avais été diffusée et j'étais au téléphone comme ça dans la rue et donc c'est la première, voilà, il y a une première femme qui
souviens.
Me reconnaît,
ouais, ouais.
Et en fait qui me parle alors que moi je suis au téléphone et je ne comprends pas qui elle est,
qu'est-ce qui
se passe,
veut.
Tu vois, je me dis peut-être elle m'a reconnue d'un...
On se connaît.
Voilà, on se connaît, je la reconnais pas, on fait de l'aquagym ensemble, je ne sais pas. Et en fait, c'est après que j'ai réalisé, je me dis, ah oui, d'accord, mais en fait, cette dame, elle me connaît.
De la télé.
De la télé, elle m'a vu dans la télé. Il y avait ça, et il y avait d'un coup aussi, sur ma page Facebook, enfin ma page, à ce moment-là, j'avais un compte Facebook
dédié à mes amis. Plein de demandes en amis.
Et là, d'un coup, oui, j'ai cru qu'il y avait un bug sur Facebook. C'est-à-dire que moi, j'avais peut-être un truc comme, allez, genre 102 amis, ouais. 104... Et là, d'un coup, j'ai eu, je sais pas, 600 demandes d'amis dans une nuit. Et je me suis dit, oh là là, Facebook, ils ont un gros problème. Il y a un bug. Il y a un bug. Ouais. Et en fait, c'était là. C'était le fait d'être reconnu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc oui, très très rapide, en fait.
Ouais. Et ça peut avoir un double effet, parce que finalement, Ondar, ça a été quand même un truc assez marquant, parfois traumatisant pour certains humoristes. Il y en a qui s'en sont pas remis, qui ont pas réussi ou à enchaîner après, ou qui ont fait des burn-out, des crises d'angoisse. Ouais. Toi, comment tu l'as vécu, finalement, la compète, justement, cette extrême visibilité? T'as bien géré, enfin en fait ça t'a pas trop.
Oui et non. En fait, c'est à dire que ce qui a été difficile pour moi, c'est que au début, en fait, j'étais vraiment dans un grand confort parce que en fait j'étais pas du tout attendue. C'est à dire que je faisais pas partie du milieu de l'humour. Vraiment, je venais de nulle part. C'est à dire, j'étais la prof qui avait envoyé un mail à l'adresse mail en bas de l'écran. Donc
rien à perdre.
Voilà, rien à perdre. Et en fait, le problème qui a eu peu à peu interne, qui n'est pas le problème des gens, qui est mon problème à moi, c'est que ensuite, ben justement, j'étais connue, reconnue, je faisais partie des pensionnaires. Et donc j'ai eu une exigence vis-à-vis de moi-même qui était croissante, mais parce que l'attente était plus grande de la part des gens.
Mmh.
Et donc, en fait, au lieu d'être de plus en plus à l'aise, au lieu de me dire, ah ben voilà, maintenant j'ai fait, allez, je fais 24 passages, 38 passages, 50 passages, et donc je suis à la maison. Non, c'était l'inverse.
Une pression grandissante.
J'étais de moins en moins à l'aise. Et en ça, oui, en ça, c'était difficile, j'ai trouvé. Du coup, de se sentir redevable, quoi. De devoir se surpasser ou en tout cas se maintenir, quoi.
Ouais. Et en même temps, ça a été donc l'entraînement qui, après, t'as mis le pied à l'étrier pour vraiment trouver une prod à ce moment-là?
Alors non, moi, c'est vrai que j'ai pas trouvé une prod, en fait. J'ai été approchée par des productions, mais finalement, j'ai pas signé avec quelqu'un. En fait, j'ai juste un administrateur qui est l'ancien programmateur de la MJC d'Aubagne.
Mais... Ça raconte quelque chose quand même. Hein.
Ah,
ça... Parce que ça raconte quelque chose des producteurs d'humour que tu vois.
Oui.
C'est quand même assez véreux et mafioso. Enfin, tu vois, tu te dis qu'une nana aussi talentueuse. Et tu... En fait, t'aurais dû avoir l'embarras du choix entre 10 super prods, tu vois. Et
ah non, mais j'ai eu, ouais, l'embarras, j'ai eu l'embarras du choix.
Ouais.
Après, j'ai fait le choix de ne pas signer parce que. En fait, ce qui s'est passé en Demande qu'à en rire, c'est que. Il y avait beaucoup d'artistes produits et en fait, au lieu d'écouter les prods, je demandais, ouais, aux artistes.
Ouais.
Je demandais, bah, je disais, enfin, en gros, je disais aux prods, voilà, je disais aux prods, c'est pas la peine en fait de trop me parler, je vais interroger vos artistes.
Ok.
Et en fait, il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont pas contents de leurs prods parce que soit les productions les ont signés mais ne les font pas tourner, soit les productions les font tourner mais ne les payent pas bien au regard de ce qu'ils rapportent. Et, donc j'ai réalisé, je me suis dit, mais c'est pas la peine de passer par une production quand on a la télé. Parce que ce que peut nous apporter une production quand on n'en a pas, c'est une visibilité. C'est le fait d'être développé, voilà, et si on a envie d'une carrière un peu plus ambitieuse que celle qu'on a actuellement, bah, une production, elle est censée servir à ça. Mais en fait, la télé, elle fait ça. La télé ou le média sur lequel on est, ou la radio a fait ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin d'avoir un producteur parce que, en fait, ma visibilité me donnait... Du coup, un moyen d'être connu, d'être éventuellement attendu par certaines salles. Du coup, j'ai des salles qui me contactaient directement. Du coup, je me suis construite une tournée moi-même. En plus, du coup, je n'avais pas la pression que peut mettre un producteur à, par exemple, à vendre des dates sur 2 ans, alors que peut-être au bout d'un an, j'aurais eu envie de m'arrêter. En fait, je faisais le choix de ma tournée. Je faisais le choix même des prix.
De rester libre.
De rester libre, en fait, exactement. Moi, du coup, j'ai fait le choix de rester libre.
Ouais.
Et ça, c'est bien.
C'est bien et ça permet aussi de pouvoir être indépendante et de pas répondre parce que le milieu de l'humour c'est quand même assez sexiste. Alors j'ai l'impression que dans Ondar il y avait quand même pas mal de gonzesses, enfin, oui, c'était plutôt mixte.
Oui, oui.
Mais est-ce que tu vois, nous là on fait des plateaux en province entre nanas, mais j'ai l'impression que c'est presque un acte de résistance, quoi, tu vois, que c'est pas un hasard qu'on fasse que des plateaux entre meufs, c'est qu'il y a tellement, enfin moi c'est une respiration ces plateaux Please Stand Up, parce que j'ai tellement été la seule nana sur des plateaux stand up où il y avait que des mecs, la seule meuf, entre guillemets la touche charme, et
le quota,
ouais, bah clairement le quota, hein, ouais, le quota, mais à la limite moi je suis pas contre les quotas, mais je suis en mode, en fait, augmentez votre quota comme ça, oui, on est deux, comme ça je suis pas toute seule, et qu'au départ, qu'en fait, je me dis, ah, mais oui, c'est normal que nous, à un moment, on dise, bah, fuck, bah, venez, en fait, on va faire notre club, en fait. Vous avez votre boys club, on fait notre sisters club, quoi. Mais toi, t'as souffert de ça dans l'humour, d'un machisme,
pas trop ? Moi, je vais être honnête, non. J'ai pas eu à souffrir du machisme. D'abord parce qu'effectivement, on demande qu'à en rire. En fait, il y avait quand même, je trouve, une...
parité.
Une parité. D'abord, on était quand même plutôt beaucoup de femmes, je pense, par rapport à d'autres milieux, et une vraie camaraderie, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment coécrit des sketchs avec des collègues hommes, j'ai coécrit des sketchs avec des copines, enfin voilà, je trouve qu'en fait on s'est globalement tous tirés vers le haut, j'ai pas eu l'impression que les filles on ait été en compétition ou que les filles et les mecs on était en compétition. C'est aussi le programme qui voulait ça, parce qu'on n'était pas dans une sélection, c'est pas comme The Voice où à la fin il y a un gagnant. Non, en fait là le but du jeu dans Demande qu'à en rire, c'était juste de revenir et d'écrire d'autres sketchs. Donc, rien que le format de l'émission, en fait, favorisait le fait qu'on avait tous intérêt à collaborer les uns avec les autres plutôt que d'être en compétition. Donc ça, c'était quand même un point très positif. Et après, je pense que le fait, dans mon travail, d'avoir été plutôt autonome fait que j'ai pas été...
T'as pas subi d'injonction dans des festivals, vous devriez porter ça.
Non, j'ai pas été dans des milieux toxiques. J'ai pas eu d'abord d'imposition de la part d'un producteur qui me dit « Ah, tu devrais faire ça, ça, parce que non. » Voilà. Et je pense que globalement, oui, j'étais plutôt préservée. En revanche, ce que j'ai vraiment constaté, c'est quand j'ai commencé à discuter avec mes collègues filles humoristes, très souvent, oui, il y avait quand même comme retour des expériences qui avaient été... vraiment dure et vraiment humiliante et vraiment toxique, en fait, soit avec des collègues de scène, soit avec tout ce qu'il y a autour, que ça soit des producteurs, des programmateurs ou même le public, ou voilà, et ça j'ai pas eu à le vivre, mais par contre je l'ai vraiment entendu et beaucoup de fois.
Ouais, mais parce que en effet t'as pas finalement le circuit des petits plateaux de stand-up et ton spectacle, est-ce que tu faisais des personnages?
Et oui, il y a aussi ça.
Ouais, c'est ça.
Il y a aussi ça. Il y a aussi, je pense, que le fait que que moi, en fait, quand on était en plateau, je faisais des personnages. Le personnage, il amène un paravent qui fait qu'on ne s'expose pas tellement en tant que personne. Mmh. Et donc, en fait, je pense que peut-être les points d'accroche qu'aurait pu avoir une personne, j'allais dire, malsaine, ben, il y en avait moins. Parce que du coup, tu ne peux pas m'attaquer sur ma vie, puisque ma vie, tu ne la connais pas, puisque je n'en parle pas sur scène.
Mais...
Et après, il y a aussi, je pense, le fait que je sois... un peu, comment dire, du coup j'étais un peu électron libre, c'est-à-dire que comme je venais pas du milieu de la scène, comme je venais sans avoir aucune connaissance du milieu des gens et tout, bah en fait j'avais pas tellement d'accroche, c'est-à-dire moi je venais, je faisais mon taf et après je repartais. J'avais pas beaucoup finalement d'à
de
côté.
De bande, ouais.
C'est ça.
Ouais, bien sûr. Et quand tu fais des sketchs, résultats, j'imagine que pour toi, est-ce que tu as des, genre, tes influences, c'était genre Florence Foresti, Muriel Robin, ou pas du tout? Il y avait, est-ce que...
Oui, non, et, ouais. Et Louis de Funès, moi je suis...
Ah ouais, Louis de Funès.
Ah ouais, Louis de Funès, j'ai beaucoup été biberonnée à Louis de Funès.
Ouais, moi aussi.
Parce que, et en plus, moi j'habitais au Maroc, et donc au Maroc, j'avais pas de télé, enfin, disons qu'il y avait des programmes en français, mais la plupart des programmes étaient en arabe à la télé.
Ok.
Et donc en fait, j'avais beaucoup de cassettes VHS, que je re-regardais, puisque du coup, c'était les seules cassettes que j'avais en français. Et parmi les cassettes que j'avais donc des cassettes de dessins animés et des cassettes de Louis de Funès.
Oscar.
Voilà, j'ai La Grande Vadrouille, Le Gendarme, Rabbi Jacob, Joe, L'Aile ou la Cuisse, Le Grand Restaurant.
Et c'est vrai qu'il y a une folie, quoi. Il y a une folie que tu as envie de voir, qui est un grotesque... Ouais, c'est vrai que moi aussi, parfois, ça me fait chier trop de réalisme. J'ai envie de dire, plus ça devient fou, plus ça commence à être clownesque. Ouais, c'est ça. Attends, et t'étais au Maroc parce que ton père ou ta mère avait un job là-bas?
Oui, mes parents, en fait, ont été coopérants pendant... En fait, ils étaient partis pour 2 ans, ils sont restés 7 ans.
Ok. Ils étaient profs aussi, non?
Ils étaient profs aussi. Ah oui.
Ah oui, donc prof, fille de prof, ligne de prof. Ah oui, donc t'as vraiment brisé le... Oui, surtout que c'est très dur d'y échapper, les familles de profs.
Oui, alors en même temps, j'ai brisé et en même temps, non, parce que je suis la seule sur les 4 enfants à avoir fait prof.
Ah, ok, tes frères et sœurs, ils avaient déjà...
Ouais. Voilà.
Ah, ok.
Donc en fait, non, moi j'étais un peu, tu sais, le cheval sur qui on mise pour l'héritage de l'enseignement. Et j'ai dit non, je vais y aller.
Oh là là. Et tes parents ensuite, parce que toi aujourd'hui tu vis à Marseille, c'est ça?
Oui, j'habite pas loin de Marseille, oui. Bah,
et c'est vrai qu'on se connaît peu, mais t'as l'air assez heureuse, t'as l'air pas très névrosée. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a un peu, tu sais, deux tendances dans le stand-up, dans l'humour? T'as
moi
quand même...
Moi aussi, je dis ça.
Tu vois?
Il y a les clowns, il y a les clowns augustes et les clowns blancs.
Un peu, ouais.
C'est-à-dire, il y a un peu ceux qui, dans la vie, une fois qu'ils descendent de scène, ils sont encore clowns.
Ouais.
Et ceux qui, lorsqu'ils descendent de scène...
Sont en dépression, ouais.
Moi, je fais partie de ceux qui restent clowns, effectivement.
C'est ça, hein?
Ouais, effectivement.
Ouais. T'as une légèreté au quotidien, quoi.
Je trouve. Et en fait... Je ne veux pas dire que je pensais que tout le monde en avait une, mais c'est un peu comme le machisme. Je me dis, ah bon, mais en fait, c'est comme ça. Oh là là, là, les pauvres. C'est vrai que j'ai une légèreté au quotidien. Et mine de rien, je pense que le fait d'habiter loin de mon travail fait partie de cette légèreté. Le fait de ne pas être à Paris au quotidien et vraiment dans le milieu à la fois... j'allais dire du spectacle, de l'audiovisuel, des médias, fait que bah, du coup c'est comme si j'ai la tête qui sort de l'eau, je fais voilà, je prends une respiration et après je m'immerge. Mais du coup je trouve que ça amène un recul.
Ouais, et j'ai l'impression aussi peut-être que ta bonne santé mentale, dis-moi si je me trompe, mais elle est liée à ta modestie. J'ai l'impression que t'as un endroit d'ego qui est assez juste, parce que tu vois, quand on parle de France Inter, tu me dis, on s'est séparés, mais pour la bonne raison, en fait, le reproche qu'ils m'ont fait, je suis assez d'accord avec eux, et je me souviens, on était dans le train, et je te félicitais pour un rôle que tu as décroché. Et puis tout de suite, tu m'as dit, j'étais vraiment contente, oui, parce que ça faisait une série de casting qui n'avait pas marché. Celui-là, j'en avais vraiment envie. Et j'ai trouvé hyper modeste, en fait, tout de suite, que tu sois dans une sincérité et pas dans un truc revanchard de... Bah ouais, carrément... encore heureux que ça ait marché. Enfin, je sais pas, j'attends. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose de. Tu prenais le truc joyeusement et sans te mettre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être que c'est. C'est un truc sur lequel tu as bossé ou tu as toujours été comme ça?
Non, je pense que j'ai toujours été comme ça, mais moi, à l'inverse, je trouve que c'est pas le signe d'une modestie.
Okay.
Je dis souvent qu'au contraire, j'ai un très gros ego.
Ah.
Mais je le dis de façon très positive.
Okay.
C'est-à-dire que, donc, c'est des discussions d'ailleurs que j'ai des fois avec Christine Béroux sur les plateaux Pistanup. Parce que Christine Béroux, voilà, souvent, quand on discute, elle me dit, bon, mais là, je sais que c'est mon ego qui parle, sous-entendu, peut-être mon orgueil. Et en fait, moi, je milite pour l'ego, parce que je trouve que souvent, quand on parle d'ego, on en donne une image
négative,
alors qu'en fait, c'est la seule personne avec qui on vit toute sa vie, c'est nous-mêmes, et que je trouve que c'est normal de se choisir soi-même plutôt que les autres, en fait, au départ. Je me dis même, c'est comme ça qu'on devrait être construit, c'est d'abord être bien soi-même, et après, on peut inonder le monde de notre bien-être. Et en fait, moi, je pense que les choses, elles me heurtent moins, pas parce que je suis modeste, mais au contraire parce que je m'aime beaucoup. Je me dis, voilà, franchement, si je suis honnête, je m'aime beaucoup. Et donc, en fait...
C'est peut-être pour ça que t'es pas si torturée.
Ben, non, c'est en fait, que,
les gens très torturés, ils ont du mal à s'aimer,
En fait, c'est-à-dire, je me dis, si tu me choisis pas, je me dis, c'est pas parce que je suis pas aimable, puisque moi, je m'adore et que je trouve que je suis super. Donc, si tu me choisis pas, c'est parce que t'as des raisons qui sont les tiennes. Mais c'est pas par le fait que je suis pas bien, puisque vraiment, je suis une super personne.
Oh ah ouais, ça, c'est un putain de super pouvoir. Clairement, je suis plus, hélas, dans la team Christine. Enfin, moi, j'ai du mal à m'aimer. Et donc, j'ai l'impression d'avoir souvent des réactions d'ego, de violence. Quand je ne suis pas choisie, je vis très mal le rejet. Mmh. Mais c'est parce que ça vient taper sur, en fait, une vision que j'ai de moi-même. Mmh. Quand je crie très fort, je suis très en colère, c'est extrêmement injuste. Mais c'est parce qu'au fond de moi, il y a une voix qui me dit « tu ne le mérites pas et de toute façon, c'est évident vu que tu es une merde ».
Oui, mais c'est souvent ça, en fait. Ouais. C'est souvent, d'ailleurs, même les gens... Qui je pense ont des complexes de supériorité. Pour moi, c'est vraiment des complexes d'infériorité.
Ouais.
Je dis, c'est très lié. C'est une blessure, c'est pas.
Ah bah oui oui oui.
Enfin voilà, c'est comme la sorcière Caraba dans Kirikou, c'est parce qu'elle a une épine, qu'elle est méchante. Et donc oui voilà, moi je.
Et c'est pareil en amour.
C'est plutôt pareil en amour. Oui,
ah
oui.
Ouais.
Oui, après en amour, j'ai quand même ce défaut, mais beaucoup moins. Que, comment dire, que j'ai un peu tendance à confondre le désir et l'amour.
Bah oui.
Voilà, et je me dis, je te désire, en fait, je t'aime trop. Puis après, je me dis, peut-être qu'il est quand même. Elle est un peu nulle quand même, cette relation. je pense qu'il faudrait partir, Féroni. et je mets du temps. Voilà, moi, je mets beaucoup de temps.
Tu mets du temps à quitter ?
Je mets du temps à quitter, oui, parce que je mets du temps à réaliser le fait de me dire, bon, là, il y a vraiment eu une erreur de casting.
Ouais.
Le fait de te dire « il va changer », non.
Ouais.
Tu as beaucoup confiance en toi, mais tu as trop confiance en l'autre. Ou même, voilà, j'ai trop confiance en moi dans le fait de me dire « j'ai une image positive de cette relation », alors que vraiment, il y a des trucs qui me disent « non ».
Mais c'est toi qui quittes au final, souvent.
C'est, franchement, c'est moitié-moitié.
Kiff-kiff.
Ouais. Quitte-quitte. Quitte-quitte.
Mais ça raconte quelque chose déjà, que tu vois, parce que typiquement, moi, c'est rarement moi qui pars.
Apprendre.
Je vais apprendre à savoir plutôt quand ça ne me convient pas et avoir plus d'exigences et d'amour propre en fait et de me dire je mérite mieux et ça c'est mais je suis comme toi, je confonds aussi beaucoup l'amour et le désir et quand quelqu'un m'attire et que j'ai très envie de faire l'amour avec lui, je suis en mode bon, c'est un peu un connard mais c'est pas grave. En fait, j'attends que le désir meure et quand le désir et sauf que en fait, c'est au contraire, parfois la passion fait que bon, c'est Mais est-ce que toi, t'en as beaucoup parlé dans tes chroniques de l'amour ou t'es restée assez discrète jusqu'à dans ta...
Ouais, pas trop. Non, je raconte peu ma vie perso parce que... D'abord parce que des fois, je me dis, ça fait... Enfin, pas, je vais pas dire que ça fait pas avancer la société. Enfin, surtout quand mon histoire, elle est foireuse. Je me dis, bon, si je fais des parallèles entre la société et mon histoire d'amour, ça va pas faire avancer le cheminement. Et après, il y a aussi le fait que quand même, on est exposé... Et que des fois, la notoriété, ça peut être invasif. Donc voilà, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai un harceleur. Après, c'est une personne qui a fait, on va dire, une fixette obsessionnelle. Et donc, moi, je donne d'infos, notamment sur ma vie amoureuse, et mieux je me porte.
Oh
Ah oui.
Oh mais meuf, c'est fou. Attends, ça fait combien de temps qu'il te harcèle?
Je pense que là, ça va faire 4-5 ans.
Non mais c'est dingue. Et t'es allée à la police?
Oui, alors mais j'ai mis du temps à porter plainte parce qu'en fait, le problème, c'est que j'avais peur qu'en portant plainte, du coup, la personne ait des infos supplémentaires, notamment sur mon lieu de vie. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi, donc, je travaille à Paris, mais je n'y habite pas. Et c'est vrai que le fait de porter plainte, ça, c'est, comment dire, j'avais deux craintes. D'abord, qu'il y ait une obligation sur le fait que ben, mon adresse apparaisse. Et en fait, ça voulait dire aussi que tous les messages, les colis, les nanana, comment dire, ça aurait accusé réception de ça. Or, comme c'est une personne qui, je pense, a des troubles psychiatriques, en fait, il y avait un peu une partie de moi qui voulait pas dire, au fait, en fait, tous tes messages, je les ai reçus, je les ai lus, j'ai reçu les vibros que tu m'envoies, les plugs anal, les
nanas.
Donc, je veux pas, enfin, presque, je me disais, je risque d'alimenter, en fait, la fixation par le dépôt de plainte, parce que du coup, forcément, si la personne, elle est convoquée et qu'il y a une démarche, bah, ça veut
lui fait
dire
presque plaisir, ça devient réel, en fait, il se passe quelque chose.
Voilà, ouais, en fait, j'avais cette crainte-là, je me suis dit, mais en fait, il faut pas que j'alimente ce truc-là. Enfin, où j'avais cette crainte d'alimenter et qu'au contraire ça aggrave quelque chose, surtout que je pense que ce sont des troubles psychiatriques qui malheureusement ne se guériront pas et que moi je me dis, enfin c'est affreux, mais des fois je me dis le seul moyen que j'ai de sortir de cette situation, c'est que ce serait que ce monsieur fasse une obsession sur quelqu'un d'autre. Et je pense que sinon ça ne se guérit pas.
Mais t'as tout testé, par exemple tu l'as bloqué de tous tes réseaux?
Oui. D'accord. Oui, bloqué. Peut pas et non, puis même par exemple là, j'ai revu qu'il s'était réabonné par d'autres biais. Oh. Donc j'en informe mon avocat, qui appelle l'avocat, qui nanana, et qui dit à ce monsieur, vraiment, rappelez-vous, vous avez une interdiction.
Waouh. Et comment tu reconnais, parce qu'il utilise le même nom, la même photo?
Bon là, la série qu'il a utilisé son nom.
Ah, il est débile. Donc, ouais. Il sait même pas te stalker en secret. Non, il est pas si débile que ça.
Pas du tout. Non, il a même. Il a des comportements qui font que, comment dire, il a l'habitude en fait d'être bloqué, puisque je crois que je suis pas la première personne sur qui il ait fait une fixette, donc c'est
son fétichisme en fait, c'est ça qui l'excite, c'est l'impossibilité, la résistance.
Je sais pas quels sont les mécanismes.
T'as jamais testé de lui répondre?
Le problème que j'ai eu, c'est qu'une fois, je lui ai répondu au début avant de comprendre
qu'il était fou. Okay.
Et donc après, j'ai arrêté. Et c'est justement ce qui a interrogé le fait que je décide ou pas porter plainte. Parce qu'il y a aussi le fait de se dire quelle va être l'utilité d'une plainte, sur quoi ça va déboucher. Dans le cas d'un trouble psychiatrique, moi, c'est vrai que j'ai milité notamment pour qu'il y ait peut-être une obligation de soins. Mais après, évidemment, il y a quand même cette partie éthique où on se dit, on peut pas enfermer une personne toute la vie au motif qu'elle m'importune. En fait, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez délicat parce qu'il y avait aussi ce truc de me dire, ce monsieur guérira pas, et donc il faut juste que je me protège, et voilà.
Ouais, mais c'est vraiment particulier. Tu t'es déjà sentie en danger, suivie?
En danger, je me sens dans, pas vraiment en danger, mais un peu dans la crainte, parce que c'est quelqu'un qui est venu m'attendre devant mon lieu de travail et sur différents endroits.
Et puis
qui a aussi des pics avec des délires très sexuels, mais sexuels pas sympas du tout.
Ouais.
Et donc, il y a un peu ce truc de dire, mais si jamais il y a un passage à l'acte, qu'est-ce que serait ce passage à l'acte?
Ah, t'as peur de te faire violer?
Oui, par exemple, ça peut être que la personne ait un geste inapproprié, ou que si jamais je le repousse, il sorte un couteau. Enfin, je sais pas, en fait, il y a ce truc-là.
Ah putain, c'est quand même, c'est quand même un cas. Et j'imagine que tes partenaires avec qui t'étais, tu leur en as parlé, ou ça devait aussi les rendre fous, non?
Oui, en fait, j'ai expliqué aussi pour...
Qu'ils se protègent, eux.
Ouais, en fait, bizarrement, oui. Parce que ce qu'il y a, c'est que des fois, les infos... les infos fuitent, la personne avec qui je suis en couple, parce qu'on va aller dans un endroit, les gens nous voient. Ça peut être vraiment quelque chose d'anodin, mais je me dis, si l'information parvient à cette personne, oui, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un sentiment de tromperie, puisque ce monsieur pense qu'on est ensemble. Il y a... Enfin, voilà, il a vraiment ce délire du fait qu'on est en couple, et donc il a déjà, par exemple, enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, il a enfin, abîmé la porte de ses voisins pour, en notre nom, c'est-à-dire en disant, voilà, il faut que vous quittez les lieux, parce que, en fait, c'est l'immeuble de moi et Nicole Ferroni. Et donc, j'ai sa voisine qui m'avait contactée en disant, voilà, sachez que j'ai porté plainte contre vous, Madame Ferroni, également, puisque comme ce monsieur dit qu'il détruit notre porte en votre nom, bah, forcément, vous êtes mentionné dans ma plainte. Voilà, ça. C'est sûr que oui, du coup, j'en ai informé mon chéri.
Ouais, bien sûr. Mm-hmm. Ouais, ouais, non, c'est compliqué à gérer quand ça prend. Alors là, c'est des dimensions extrêmes.
Oui, mais ouais, c'est
extrême, quoi.
Oui, c'est le plus ingérable de la petite notoriété que j'ai. Et encore, moi, vraiment, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans l'hyper-notoriété. C'est-à-dire que je ne suis pas, voilà, je suis pas Laurent Ruquier ou Monica Bellucci, ou je sais pas, voilà, j'ai pas ce niveau-là de notoriété, mais franchement, je me dis vraiment, oui, ça doit être invivable. Les gens qui sont vraiment très, très connus, forcément, ça amène un lot d'obsédés, malheureusement, enfin, ou de personnes qui focalisent, qui peuvent rendre la vie pas vivable. Ouais.
Mais c'est vrai que je remarque que tu fais quand même, justement, déjà, le fait de mettre peu de choses intimes de toi en ligne, ça doit créer une limite. Moi, j'ai quelqu'un sur Insta qui réagit tous les jours à quasi toutes mes stories. Et en vrai, je trouve ça harcelant. Mais oui, j'ose pas le bloquer parce que, bon, c'est un fan, c'est inoffensif. Je l'ai restreint pour pas qu'il voit que je vois. Mais c'est tout le temps des notifications. Et en fait, et j'ai l'impression que quand je vais dans mes DM, si c'est de temps en temps, quelqu'un qui adore le podcast ou qui suit mon travail, j'en sais rien. Allez, une fois par semaine, allez, même une fois tous les 2-3 jours, soit. Mais là, c'est tous les jours et plein, ça se suit. Mais il n'y a rien qui dépasse les limites, tu vois. C'est pas extrême. Il n'y a rien qui justifierait que je le bloque non plus, tu vois. Mais
c'est invasif quand
mais
même.
Mais c'est invasif. Oui. C'est invasif. Et puis, quand il a et puis, de temps en temps, il glisse un truc, en effet, un peu amoureux, mais soumis. Et il restera dans sa case d'amour impossible entre lui et moi, mais quand même en se manifestant. Quand même, on ne sait jamais.
Si un jour, elle attrape la perche, quand même.
Ouais.
Je vais lui en mettre 10.
Bah ouais. Et c'est vrai que parfois, ça me bloque un peu. Je me dis, est-ce que je dois faire attention à ce que je mets? Et en fait, non, je continue pour le coup à vraiment, vraiment pas m'empêcher de raconter ma life parce que j'ai pas envie de me censurer. Mais bon, c'est un petit peu chelou. Je veux pas nous mettre en retard parce qu'il est 17h09. Oui. Est-ce que je peux passer au questionnaire de Proust?
Allez.
La qualité que tu préfères chez un homme?
La gentillesse.
La qualité que tu préfères chez une femme?
La gentillesse.
Le principal trait de ton caractère?
La gentillesse.
Ouais, c'est vrai. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Alors, Bon, la gentillesse aussi, mais la proximité, la complicité.
Ton principal défaut?
Le manque de courage.
Ah ouais?
Ouais.
J'aurais pas dit ça de toi.
Mais non, mais parce que je lutte. Maintenant, mais intimement, mon premier réflexe, c'est la fuite.
Ah ouais?
Ouais, quand il y a un problème, tu peux être sûre que je fuis. Et maintenant, je ne le fais plus, parce que je sais que c'est ça mon problème.
Ton occupation préférée?
Aller à la plage et faire des mots fléchés.
Ah ouais?
Avec ma mère et mon chien. Enfin, mon chien ne fait pas les mots fléchés, mais elle est là.
Ma mère aussi adore les mots fléchés. Non, ma mère, c'est les mots croisés.
Ah, ma mère, elle fait les deux.
Ah ouais. Ah ouais. C'est sa life, quoi. Ton idée du bonheur?
Aller à la plage et faire des mots fléchés avec ma mère et mon chien.
Oui. Quel serait ton plus grand malheur?
Voilà, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, je pense que comme je suis heureuse, je crains beaucoup le malheur. Globalement, je pense que le plus grand malheur, c'est le malheur qui peut être évité. Donc, pas la fatalité. Par exemple, moi, la maladie, ça ne me fait pas peur, mais la cruauté me fait peur. Ouais. C'est-à-dire des événements où les gens ont le choix de faire du bien et font l'inverse. Ouais. Mmh. C'est la cruauté, c'est vraiment ce que je déteste le plus.
Mmh. Il y en a pas mal chez les profs parfois, hein, envers les élèves, des profs cruels.
Cruels, oui, il y en a.
Il
ouais.
y en a,
ouais,
ouais. Parce qu'ils ont vraiment le choix. C'est oui. pas entre adultes. Là, c'est quand même, c'est toujours un peu mmh. décidé quand tu décides d'être...
D'être dur.
Ouais.
Mais même, je trouve que dans la vie, en fait, ouais. globalement... En fait, moi, par exemple, souvent, je dis les humains que j'aime pas, c'est les humains des JT.
Ouais.
Alors, bon, sauf ceux de Jean-Pierre Pernaut, on pense à lui. Mais mine de rien, c'est vrai que, en fait, les JT de Jean-Pierre Pernaut, moi, j'aimais bien les sujets qui servaient à rien, voilà, sur le marché de la saucisse ou je sais pas quoi. Parce que... Ça montre aussi des humains qui sont justement pas cruels, alors que je trouve que les JT
ouais.
sont emplis de cruauté.
Ouais.
Bah, surtout particulièrement en ce moment. Je trouve que voilà, ah, la ouais. guerre, on se dit, mais t'as le choix en fait de pas tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas semer le malheur chez lui, chez toi? C'est stupide. C'est vraiment... Ça me hérisse et ça m'attriste profondément.
Où aimerais-tu vivre?
J'ai la chance de vivre où j'aimerais vivre, donc pas loin de la mer, pas loin de Marseille. Franchement, j'adore cette région.
Comment aimerais-tu mourir ?
J'aimerais mourir vieille. Ouais, j'espère vivre longtemps, mais j'aimerais mourir comme ma grand-mère. Alors, ma grand-mère, elle est morte d'un cancer du pancréas. Bon, je ne dis pas que je veux choper un cancer du pancréas, mais... comment dire, elle a eu toute sa tête jusqu'au bout.
Mm-hmm.
Et ça, je crois que j'aimerais ouais. bien avoir cette mort-là.
Mm.
Cette espèce de glissement.
Lucide.
Où, ouais, voilà. Et voilà, parmi les dernières phrases qu'elle a dit, c'est elle a dit « J'ai pas peur, j'ai pas mal, je peux partir. »
Waouh.
Et je me dis « C'est super, ça. »
Carrément.
Ça, c'est vraiment une mort que je me souhaite.
Est-ce que t'as une devise favorite ?
J'en ai, mais laquelle ? Bah, il y a le fameux « Béni soient les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière ».
Ah.
Et ça, je l'aime beaucoup parce que c'est en fait, moi, c'est vrai, dans Fêlé, il y a un peu ce truc un peu cinglé. Je trouve que c'est voilà, c'est bien de laisser de la place à la joie et au débordement et voilà, sortir des carcans. Je trouve que oui, ça amène de la lumière dans la vie. J'aime bien cette phrase là.
Mmh. Et enfin, ton état d'esprit actuel,
mon état d'esprit actuel. En fait, je suis un peu triste que la vie me donne pas raison, dans le sens où je trouve que, comment dire, en fait, je suis vraiment triste que le monde aille mal. Mm. C'est-à-dire, je suis triste des talibans en Afghanistan, je suis triste de la guerre en Ukraine, et je me dis, mais bordel de merde, pourquoi ça va pas mieux? Pourquoi cette année, on a des retours en arrière, où en un mois, la vie fait un bond de 100 ans, j'ai l'impression, en arrière. Et ça me... Voilà. En fait, je suis aussi... Comment dire, j'ai autant de gratitude dans le fait d'être, moi, heureuse et de vivre des choses positives que ce que je suis triste que tout le monde n'ait pas la chance d'être moi.
Mmh.
En gros, c'est un peu ça.
T'es hypersensible ou pas ?
Je suis sensible, ouais, je suis sensible. Enfin, je ne sais pas si je suis hypersensible, mais en tout cas... Oui, je veux dire, s'il y a une guerre, je pleure, c'est clair. Hein. J'ai au moins besoin de 2 jours pour pleurer pour des gens que je connais pas, mais je trouve que c'est... Ouais, bien sûr, je suis triste.
Merci, Nicole.
Merci, Rosa.
Et voilà, c'était Nicole Ferroni, les amis. Entre-temps, comme promis en outro, je vous raconte la soirée d'hier soir, le show à Belle-Île, au Palais, à l'Arletty. Bon, un peu comme prévu, j'ai pas... cartonné de ouf, mais personne, c'était pas un public de comédie club classique, c'était des Illois et des vacanciers qui, à mon avis pour certains, n'avaient jamais vraiment vu de stand-up, pas mal de familles, beaucoup d'enfants. Au début de mon set, c'était un peu calme, ils ont mis un peu de temps avant de rentrer dans mon univers, ils étaient peut-être un peu choqués, il faisait très chaud dans la salle, certains ont dû partir, une personne a fait un malaise, je crois. Puis au milieu, j'ai fait des interactions et ça les a beaucoup détendus, là ils se sont bien marrés. Ils ont plus facilement accédé à qui j'étais, je crois, à ma personnalité. Puis à la fin du set, c'était cool, franchement c'était cool. Pas un carton, mes camarades m'ont complimenté. Mais moi, voilà, je suis aussi toujours très dure envers moi-même. S'il n'y a pas des gros rires, des applauses, je décrète vite « bide ». Alors qu'en sortant, j'ai rencontré une auditrice du podcast, Anna, et une amie à elle. Elles étaient super enthousiastes et avaient même écrit certaines de mes punchlines en souvenir dans le livre d'or du théâtre.
Anna m'a fait de très beaux retours aussi sur mes interventions dans le podcast Hotline, en me remerciant d'être moi-même, de ne pas tricher, de parler de la souffrance, des déceptions. J'étais touchée. En fait, ce genre de rencontres, de messages, donne du sens à mon travail. Du spectacle, au podcast, au livre, j'essaie de créer une continuité. Je me dis que si j'avoue la part vulnérable, le manque de confiance, et en même temps mon désir très fort, la joie aussi, ça vous rencontrera, ça fera écho. Je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas si tous les auditeurs vont jusqu'au bout des épisodes, jusqu'à l'outro, et je ne sais même pas si les auditeurs écoutent tous les épisodes, je crois que vous piochez quand même pas mal en fonction des invités, mais bon, je vous dis ce que j'ai à vous dire là, et je ne sais pas si j'en reparlerai, enfin, je ne suis même pas trop censée vous en parler, mais bon, ok, je vous le dis, je travaille sur un gros projet, en fait j'adapte mon livre en série. Ces derniers mois, plusieurs producteurs ont témoigné un vif intérêt, et il a fallu choisir la maison de prod à qui j'allais donner les droits de mon livre. J'ai eu un coup de cœur pour une productrice, et là elle m'accompagne, et je dois pondre 15 pages cet été pour déposer un dossier au CNC fin septembre, le 23. Le FAIA, c'est l'aide au concept de série, et ensuite, enfin, ou dans le même moment, en tout cas on ira certainement pitcher devant les chaînes, les plateformes, quand elle jugera que c'est le bon moment, que je suis prête. Donc voilà, je n'ai pas. C'est pour ça que je dois vous laisser, là je vais travailler. Et puis il n'y a pas de hasard dans la vie. Figurez-vous que la réalisatrice dont je rêve pour ma série est à Belle-Île en ce moment et je dois la croiser demain pour un café. Donc je remets la tête dans mon pitch, puis peut-être plus tard dans l'eau et je vous fais de gros bisous. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.